Pendant la guerre de 14-18, quand les poilus partent au front, ils disent être de la chair à canon et qu'ils vont au casse-pipe. Cependant, beaucoup d'entre eux font aussi le beau et expriment le désir d'en découdre avec l'ennemi. Tous les conflits armés ont une part de bravade. Et il n'y a encore pas si longtemps que les combattants avançaient le buste bombé en chantant sous une pluie de projectiles. Que ce soit la guerre de sécession entre les États du Nord et du Sud de la Jeune Amérique, les campagnes napoléoniennes ou encore la Première Guerre mondiale, pour ne citer que celles-ci, ne sont rien de moins que d'immenses boucheries. Cependant, la description que fait l'apôtre Jean des jugements de la fin des temps montre que le pire est encore à venir. En effet, quand la sixième trompette de l'Apocalypse sonne, Jean rapporte que « on délia les quatre anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'il extermine le tiers de l'humanité. » Ça fait beaucoup de monde détruit par ces anges, qui en réalité sont des esprits déchus, qui ont sur leur ordre des armées de démons. Je continue de lire dans le chapitre 9. Ils étaient deux myriades de myriades de cavaliers. C'était leur nombre, tel que je l'entendis. Aujourd'hui, on pourrait facilement tuer entre 1 et 2 milliards d'individus en utilisant ce qu'on appelle des armes de destruction massive. Mais ce n'est pas de cette manière que les démons vont mettre à mort le tiers de l'humanité. Les quatre anges déchus vont plutôt déployer des effectifs militaires colossaux. En effet, 2 myriades de myriades sont équivalents à 200 millions, ce qui, en gros, était le nombre de soldats de l'armée rouge de Mao Tse-tung. Il faut prendre le chiffre de Jean littéralement, puisqu'il insiste en disant « c'était leur nombre, tel que je l'entendis ». Quand on ajoute à ces 200 millions de démons libérés de l'abîme, les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres et les esprits du mal dans le monde céleste, que mentionne l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, ça fait une armée innombrable. Je continue le texte du chapitre 9. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouges feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions, et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Jean commence par décrire brièvement les démons qui montent les chevaux d'outre-tombe, à cause de leur couleur vive qui frappe les regards, du rouge, du jaune et du bleu très foncé, proche du noir de fumée. De tels monstres apparaissent dans la mythologie païenne, et c'est sans doute à dessein que Jean emploie de telles expressions pour montrer que cette multitude infernale dépasse les créatures imaginaires les plus effrayantes de la superstition païenne. Le feu et le soufre sont les deux éléments qu'on retrouve chaque fois qu'il est question de l'étang de feu et de soufre. La destination finale des anges déchus et des êtres humains rebelles à Dieu, condamnés à mort pour l'éternité. Après les cavaliers, Jean s'étend assez longtemps sur les chevaux. Dans les Écritures, le cheval est souvent associé à la guerre, mais ici, il est évident qu'il ne s'agit pas de vrais chevaux, puisqu'ils ont une tête qui ressemble à celle d'un lion. Mais, comme le lion, ils traquent leurs victimes avec acharnement. De plus, ils ont un comportement qui est plus proche de celui du dragon que du cheval. Tout comme les cavaliers qui les montent, ces chevaux hybrides sont des anges déchus, des esprits méchants, et ils tuent leurs victimes avec du feu, de la fumée et du soufre, ce qui revient à les brûler et à les asphyxier. Le soufre, enflammé, fait les deux à la fois. Il consume ce qu'il touche, et il dégage une fumée suffocante. C'est d'ailleurs de cette manière que l'Éternel a détruit Sodome et Gomorre, ainsi que les autres villes de la vallée de Siddim. Dans le livre de la Genèse, on lit « Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel, de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes, ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périrent, ainsi que la végétation. Le tandem démoniaque, cavalier-cheval, est scintillant et coloré. Mais, assez curieusement, son aspect général rappelle une silhouette diffuse, un peu comme celle des revenants que certains disent voir dans certains lieux hantés. Par contre, le feu que les chevaux crachent est bien réel, puisqu'il consume ceux qui sont atteints. Je continue le texte. Par ces trois fléaux qui sortaient de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé. Jean emploie fréquemment le mot « fléau » pour décrire les destructions qu'engendrent tous les jugements, et il se répète assez souvent parce qu'il sait très bien que ce spectacle de fin du monde auquel ils assistent et qu'il essaye de décrire est inimaginable. Il veut donc marteler ses visions autant que possible dans l'esprit de ses lecteurs et dans le nôtre. Je continue. Car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. En effet, leur queue ressemblait à des serpents. Elle était pourvue de têtes qui leur servaient à nuire. Jean ne nous avait pas encore tout dit. Ces chevaux sont de plus en plus bizarres. Non seulement ils ont une tête de lion qui crache du feu, mais également une queue qui ressemble à celle d'un serpent, sauf qu'elle est pourvue d'une tête et dont le venin est mortel. Ces forces démoniaques sont redoutables car dotées d'armes surnaturelles qui leur permettent de tuer à volonté. Je continue. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. La mort du tiers de la population mondiale constitue la pire des catastrophes que l'humanité ait connues depuis le déluge. De plus, il est quasi certain que le nombre de victimes qu'ont fait les hordes démoniaques est bien supérieur à la totalité des êtres humains qui ont péri par les eaux du déluge. Cela fait maintenant plusieurs années que les non-croyants ploient sur les jugements. Ils ont vécu des moments terribles et vu certains de leurs amis, voire de leur famille, décimés par les plaies. Ils souffrent et meurent, et pourtant, ceux qui sont encore debout s'endurcissent, élèvent le poing au ciel contre Dieu, tout au moins dans leur cœur. Ils savent pourtant très bien ce que le Seigneur leur demande, car les 144 000 évangélistes juifs et les deux témoins venus du ciel, ainsi que d'autres croyants, annoncent fidèlement la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, à qui veut l'entendre. Cependant, la majorité des survivants refusent toujours de se repentir et de s'humilier devant Dieu. Ils sont donc tout aussi rebelles et coupables que les Juifs qui ont rejeté le Christ comme leur Messie, après avoir vu ses miracles, entendu son enseignement et l'annonce de sa résurrection. Tous les incrédules de la fin des temps périront, comme ceux du premier siècle. Je continue le texte. Ils, les survivants, ne cessèrent pas d'adorer les démons, ainsi que les idoles d'or, d'argent et de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Jean énumère plusieurs comportements et pratiques qui montrent comment la majorité des êtres humains lance un défi et se rebelle contre le Créateur. Le premier est l'idolâtrie. Dans le psaume 115 et 135, le psalmiste écrit « Leurs idoles d'argent et d'or sont faites par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent pas marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe, et pas le moindre souffle ne se trouve en leur bouche. Dès que Adam et Ève, nos premiers parents, ont tourné le dos à Dieu, ils se sont enfoncés dans le péché, et leurs descendants ont sombré dans l'idolâtrie, en vénérant l'œuvre de leurs mains. De nature, l'homme est un être religieux, parce que Dieu l'a conçu ainsi, afin d'être adoré par lui. Mais tous ceux qui refusent de reconnaître en Jésus Dieu fait homme sont condamnés à l'idolâtrie. C'était vrai dans l'Antiquité, mais ça l'est encore aujourd'hui dans bien des cultures, où les gens rendent un culte à des idoles, des figurines et des images, qui sont des fabrications en métal ou en bois, avec des clous et des vis, des sculptures faites de plâtre ou de papier mâché. Adorer des idoles n'est pas un geste anodin, car derrière elles se cache une entité spirituelle, un esprit impur et méchant. Quand on vénère une idole, qui est une divinité qui n'existe pas, un ou plusieurs démons, qui eux existent vraiment, personnifient les faux dieux et tiennent leurs adorateurs captifs par leur puissance et leur tromperie. Les prêtres et les praticiens du culte païen sont dotés de réels pouvoirs qui leur sont donnés par les démons, qui utilisent ces moyens pour retenir prisonniers leurs victimes dans leurs griffes diaboliques. Pendant la tribulation, foisonneront l'idolâtrie, l'occultisme et toutes sortes de fausses religions qui asserviront des multitudes. Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit « L'Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. » Dans l'Ancien Testament, les prophètes israélites dénoncent avec force l'idolâtrie de leurs concitoyens en les menaçant du jugement de Dieu, ou en se moquant d'eux. Je vais lire quelques passages qui sont un peu longs, mais ils valent le détour parce qu'ils montrent combien l'homme incrédule est stupide. Ce qui le rend crédule, prêt à croire n'importe quoi, les prophètes Ésaïe et Jérémie écrivent respectivement. Une idole moulée, un artisan la fond, l'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or, et, pour l'orner, il le coule des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas, puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas. L'artisan ferronnier appointe son burin, le passe dans la braise, et à coups de marteau, façonne son idole avec la force de son bras. Mais sitôt qu'il a faim, il n'a plus d'énergie. Et s'il ne boit pas d'eau, le voilà qui faiblit. Et voici le sculpteur. Il a tendu sa corde, trace l'œuvre à la craie, puis, avec le ciseau, il l'exécute et il la dessine au compas. Il la façonne ainsi d'après la forme humaine, et à la ressemblance d'un homme magnifique, pour qu'elle habite un temple. Il a coupé des cèdres, ou bien il s'est choisi du cyprès ou du chêne, ou bien il prend un pin qu'il a planté lui-même, que la pluie a fait croître. Or, l'homme se sert de ses bois pour les brûler. Il en prend une part pour se chauffer. Il allume le feu pour y cuire son pain. Avec le même bois, il fait un dieu, et il l'adore, il fabrique une idole et se prosterne devant elle. La moitié de ce bois, il l'a livré au feu. Grâce à cette moitié, il mange de la viande, il fait cuire un rôti, et il s'en rassasie. Il prend aussi une part de ce bois pour se chauffer et dit qu'il fait bon avoir chaud et voir la belle flamme. Quant au reste du bois, il en fait une idole. Il la prend pour son dieu, il se prosterne devant elle et il l'adore. Il l'invoque et lui dit « Délivre-moi, car toi, tu es mon dieu !» Ils sont sans connaissance. Ils ne comprennent rien et ils n'ont pas d'intelligence. On a bouché leurs yeux afin qu'ils ne voient pas. On a fermé leur cœur afin qu'ils ne saisissent pas. Aucun ne réfléchit. Aucun n'a de savoir ni assez de raison pour se dire en lui-même « J'ai brûlé la moitié de mon bois dans le feu. J'ai aussi cuit du pain sur les braises du bois. J'ai rôti de la viande dont je me suis nourri. Et de ce qui restait, j'ai fait une abomination. Je me suis prosterné devant un bout de bois. » Il se repaît de cendres, car son cœur abusé l'a mené dans l'erreur. Les coutumes des autres peuples ne sont que du néant. Leur dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main de sculpteur. On l'embellit d'or ou d'argent. Un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent pas parler. Il faut qu'on les transporte, car ils ne marchent pas. Après avoir bu du vin dans les coupes d'or et d'argent que Nebuchadnezzar avait rapporté du temple de Jérusalem, le roi de Babylone, Balthazar, ainsi que toute sa suite utilise la vaisselle sacrée de l'Éternel pour leur beuverie. Mauvaise idée. Dans le livre de Daniel, on lit « À ce moment-là, apparut soudain, dans le candélabre, les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Le prophète Daniel est alors semé de déchiffrer l'écriture, mais il commence par raconter comment l'Éternel a humilié Nabucodonosor. Il dit « Il fut chassé de la société des humains. Sa raison devint semblable à celle des bêtes, et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Il se nourrissait d'herbes comme les bœufs, et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il élève à la royauté qui il veut. » Puis Daniel dit à Balthazar, « Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, et cependant, tu n'as pas gardé un attribut humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis toi, et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main, et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. » Ce réquisitoire est l'acte de condamnation à mort de Balthazar, car dans la nuit, Babylone est conquise et le roi tué. En France, on est proche de Balthazar, car on adore aussi l'argent, la bonne bouffe, le pinard et les concubines, le bon temps, les week-ends et les vacances. Et comme on se dit athée, on remplace Dieu par une pseudo-science qui met l'homme au même niveau que l'huître et les choux de Bruxelles. Je finis de lire le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse. Il, le reste des hommes, ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leur pratique magique, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Dans sa seconde lettre à Timothée, l'apôtre Paul prophétise disant « À la fin des temps, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leurs passions et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ce n'est pas tout. Car les impies, méchants et vicieux, pourchasseront les croyants pour se venger des catastrophes que Dieu leur fait subir. Après l'idolâtrie et la cruauté, l'apôtre Jean mentionne un troisième vice, les pratiques magiques. Le mot grec, ainsi traduit, a donné pharmacie et tous ses dérivés. Mais ce mot désigne aussi les poisons, les amulettes, les sortilèges, les séances de spiritisme, la sorcellerie, les incantations et les médiums. Dans les religions à mystère qui datent de l'époque de la tour de Babel, les dévots mystiques cherchent à communiquer avec les divinités au travers d'expériences extatiques. Pour atteindre ces états seconds, les adeptes utilisent des drogues, l'alcool et des danses frénétiques ou bien des comportements animaliers. La culture du hard rock diffère très peu de ces rites païens car la drogue, les lumières clignotantes, psychédéliques et le rythme endiablé d'une musique assourdissante se combinent pour produire une sorte de transe hystérique en masse. Or, et comme par hasard, les stars du rock sont souvent des adeptes des religions orientales. La quatrième pratique coupable mentionnée par Jean est l'immoralité. Le mot grec « porneia », ainsi traduit « adonné pornographie » en français, c'est un terme général qui décrit n'importe quel péché d'ordre sexuel. La débauche, la fornication, l'adultère, le viol, l'homosexualité ou les perversions. Finalement, les impies de la tribulation continueront leur malhonnêteté, c'est-à-dire que la tromperie régnera, chacun essayant d'abuser son semblable. Ce sera la loi de la jungle et du chacun pour soi. À l'instar de l'immoralité, la fourberie remplacera la droiture dans les relations sociales et familiales, ainsi que dans le monde professionnel et celui des affaires. Car la compétition sera rude pour survivre et trouver ce ne sera-ce que les denrées de première nécessité et des médicaments pour se soigner. À cause de l'influence démoniaque, l'humanité baignera dans un marasme de fausses religions, de perversions et de délits de tout ordre, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il n'est donc pas étonnant que Jude prophétise. À la fin des temps, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tout et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui.